Nous allons dans l'Évangile selon Marc, pour lire l'un des trois textes du jour, Marc 13, les versets 24 à 32. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont des cieux, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, dans sa puissance et sa gloire. Il enverra les anges pour rassembler ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Quand nous relisons des lignes comme celle-ci, et nous en trouvons un équivalent aussi dans l'Évangile selon Matthieu, on se demande à chaque fois si Jésus avait bien la même conception que nous de la fin des temps ou de la fin d'un temps ou d'un monde, si ce n'est de la fin du monde. Est-ce qu'il voyait le déroulement de l'histoire de la même manière que nous ? Pas sûr. De la même manière que ses contemporains, c'est probable. Notre vision des choses finales, puisqu'il est question de cela dans ce type de texte, est encore et toujours faite de crainte, d'inquiétude, parce que nous avons pris l'habitude de croire que le monde courait vers une fin catastrophique. Il suffit de faire un sondage pour demander quel sens la plupart des gens donnent au mot apocalypse et vous serez fixé, même s'il n'apparaît pas ici. À force de l'imaginer et de le croire, nous avons fini par être persuadés que c'était la vision de Jésus lui-même, cette collapsologie biblique cachée derrière les versets, un catastrophisme de bonne loi. À force d'imaginer et de croire tout cela, nous avons fini par faire un assemblage de ces choses et de les associer, sans nous demander si nous avions raison de le faire. Et pour nous conforter dans cette idée-là, nous avons fini par sélectionner dans l'Écriture des textes qui confortaient cette hypothèse. L'hypothèse d'une fin violente en particulier, et nous avons à peu près écarté toutes les autres. Ça s'appelle un biais. Voilà. On écarte tout ce qui dérange et on ne retient que ce qui nous conforte. Dans ce passage de Marc, l'Évangile utilise plusieurs interprétations, plusieurs éléments de langage, dirions-nous aujourd'hui, volontairement entremêlés, pas forcément très compatibles les uns avec les autres d'ailleurs, par les auteurs ou l'auteur lui-même, qui, je me suis laissé dire récemment, pourrait bien être une femme, même si ces interprétations sont contradictoires, elles sont là, elles sont dans le texte. L'auteur, avec un « e » ou pas, de l'Évangile, emprunte d'abord une vision à Ésaïe. Il y a une citation, dans certaines de vos Bibles, vous verrez, la citation est en italique, on la reconnaît tout de suite. « La lune s'obscurcira, les étoiles tomberont » et puis il cite enfin le prophète Daniel, lui aussi en italique, hein, comme il se doit, disant que « viendra alors le Fils de l'homme ». Petit assemblage comme ça, un tissage de citations qui nous disent beaucoup de choses, peut-être un peu incompatibles ou en tout cas un peu contradictoires, difficiles à harmoniser. Et puis il raconte comment il faut repérer, comment il faut exercer son discernement pour repérer la venue du Fils de l'homme seulement en regardant les rameaux verdir au printemps. Ça doit normalement suffire. À la fin du récit, l'auteur prête à Jésus les propos un peu plus inquiétants, en suggérant que la fin tragique pour le monde interviendra avant la fin de cette génération. Cette génération ne passera pas, vous verrez, vous verrez, vous verrez ce que vous verrez. Bon, vu le mélange des genres rassemblé ici en quelques lignes, on peut se demander si Jésus pense à une fin tragique du monde ou s'il suggère que le monde est en train d'accomplir tranquillement son destin, parce qu'il est toujours là si longtemps après. Il a cheminé, il a fait son petit bonhomme de chemin. En tout cas, urgence ou durée, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. On a tout fait pour nous perdre dans ce texte. Pas même le Fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le feu au lac. Ça n'est pas la première de nos préoccupations, en tout cas, le jour et l'heure. Mais alors, de quoi est-il question dans cette histoire d'étoiles qui tomberont et de ce ciel qui doit s'obscurcir comme un signe manifeste que quelque chose est en train de se passer? Il n'est pas question de fin des temps ou de fin du monde, mais surtout de la venue du Fils de l'homme. C'est ça qui est annoncé. Le cœur même de ce passage, c'est d'annoncer cet avènement-là. C'est nous qui avons mêlé les deux événements pour produire une vision de catastrophe, de collapsus divers et variés qui accompagnerait cette venue. Pourtant, il est déjà venu, et ça n'a pas fait beaucoup de bruit dans les livres d'histoire. C'est après que leurs disciples et que nos traditions nous en ont parlé. Jésus ne répond pas dans ses textes à la question qui nous hante: comment tout cela va-t-il finir? Il n'y répond pas. Là encore, il n'y a pas le feu. Pas encore. Mais il nous interroge pour savoir comment nous percevons sa présence dans le monde. Et il nous donne quelques repères. Ça tombe bien, on nous invite au discernement. Partir sans rien, nous angoisser un peu, nous voici avec quelques signes, c'est déjà ça. Reprenons les grandes prophéties d'Ésaïe, il fait allusion à des événements catastrophiques comme nous pouvons en avoir déjà vécu nous-mêmes. Et il interpelle notre foi. Savez-vous discerner la présence du Christ, nous dit-il à partir de cette prophétie sur les étoiles qui pâlissent dans un ciel qui s'obscurcit. Beau contraste. Même dans ces conditions, dit Jésus, même dans les moments les plus obscurs, le Christ reste présent, je serai présent pour rassembler et soutenir ceux qui se fient à moi. C'est cela que je vous promets. Et ce ne sera pas une catastrophe. Ça fera tellement peu de bruit que vous ne serez peut-être même pas capable de la déceler. Dieu laisse les hommes conduire l'histoire du monde. Et c'est pourquoi il nous est parfois apparu comme absent pendant de très longs moments ou des éclipses tragiques où nous aurions aimé sa présence à nos côtés. Et pourtant, il continue silencieusement à inspirer, conduire, diriger ceux qui se confient en lui, ceux qui ont foi en lui. Seuls les croyants ont alors le privilège de le reconnaître et de l'entendre. Encore que, on pourrait se poser la question, sommes-nous les seuls à discerner sa présence? C'est une bonne question. Mais parce que tous ceux qui entreaperçoivent sa présence ne cessent jamais d'espérer, alors nous avons le seul repère qu'il nous fallait. Les événements ne sont pas toujours violents, bruyants. Il n'y a pas toujours du buzz ou des choses voyantes ou audibles. Les jours succèdent aux jours et on va dans nos années, en nous réunissant ici, de Noël à Pâques et de Pâques à Noël, sans heurts, sans histoire, si bien que dans ces situations-là aussi, on peut être amené à se poser la même question: le Christ est-il visible parmi nous et comment? Les messages issus des milieux religieux ne sont pas forcément les plus intéressants, ils sont parfois les plus audibles, les plus criards même, pas forcément les plus intéressants. Souvent même, ils ne présentent rien de pertinent et ne répondent pas aux inquiétudes des peuples. C'est cela qui nous rend inaudibles, ne plus savoir quoi dire. Ce n'est pas une question de décibels. Malgré le calme apparent, des bruits de guerre se font plus précis. On nous en annonce beaucoup, surtout en période électorale. Ils inquiètent les humains qui se demandent où va le monde. Et qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de courir à la énième catastrophe qu'on nous annonce? Et pourtant, ce texte insiste en nous disant « Mais regarde, la présence de Dieu est visible à l'œil nu. C'est ce que prophétise Jésus, en tout cas Dieu visible, dans tous les gestes d'amour, les gestes d'accueil, les gestes de don dépourvus de calcul, dans les poignées de main données qui réconfortent celui qui est abandonné, dans le regard amical adressé à quelqu'un qui n'attend plus rien, qui est condamné, qui désespère. Il est là. Il est visible dans ce baiser que l'on vous donne et que l'on n'attend pas, dans ce sourire que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous adresse pourtant au moment où le courage vous quitte. Il est là. Il est dans ces relations de tous les jours qui mettent du soleil dans la vie, là où il en manque un peu ou beaucoup. Toutes ces choses peuvent être des signes discrets, certes, mais qui se voient à l'œil nu, et par lesquels le Christ est bien de retour parmi nous, qu'il nous réconforte. Il nous faut apprendre ainsi à discerner dans le quotidien tous les miracles qui frémissent de la présence du Christ. C'est à cet exercice que nous sommes invités. Et nous ne pouvons pas nous livrer à cet exercice si nous regardons en l'air la venue prochaine des météorites qu'on nous promet. Nous avons perdu de vue ce qu'il fallait regarder. Nous devons retenir de ce message de Jésus aux siens que sa présence effective dans le monde ne se voit pas forcément au premier regard, mais elle est pourtant accessible, visible. Il faut que chacun apprenne à porter sur les êtres qui l'entourent ce même regard que Jésus porte sur nous, afin que ceux qui doutent, ceux qui désespèrent puissent discerner comme nous, ici ou là, la présence de Dieu et de son Christ dans le monde. Sa présence ainsi repérée chaque jour nous entraîne avec lui tout doucement jusqu'au jour du grand face-à-face. Mais pour ce grand face-à-face, une dernière fois, personne n'en sait rien, ni le jour, ni l'heure, ni l'aspect. Cioran écrivait « Le vrai contact entre les êtres ne s'établit que par la présence muette, par l'apparente non-communication, par l'échange mystérieux et sans parole qui ressemble à la prière intérieure. » Pour ceux qui l'ont lu un peu, on ne s'attend pas souvent à ce genre de phrase chez lui, et pourtant, c'est sans doute quelqu'un qui avait compris la nature du silence qu'il faut faire à l'intérieur de soi pour voir ce que d'autres ne voient pas. Peut-être que ce que nous nommons Dieu habite le monde de cette manière-là, discrètement, sans bruit, par les gestes silencieux et répétés du quotidien. C'est cette permanence qui nous dispense, je crois, de nous tourmenter au sujet du jour et de l'heure, parce que c'est maintenant, c'est toujours. Amen.